Vous écoutez Amour, Santé et Liberté, le podcast d'AIMI, la mutuelle des étudiants et des jeunes actifs. Dans cette émission, nous donnons la parole à des spécialistes de la santé et de la prévention des risques, mais également à tous les étudiants porteurs de projets qui souhaitent agir concrètement dès aujourd'hui pour construire le monde de demain. Si vous aimez ce que vous écoutez, et nous l'espérons, retrouvez régulièrement de nouveaux épisodes sur toutes vos plateformes de streaming audio favorites et sur notre site web aimi.care. Bonne écoute! Bonjour Olivia Benamou. Vous êtes psychologue clinicienne ou psychothérapeute individuel, de couple et de famille et sexologue. Vous êtes intéressée à de nombreux sujets. Vous avez publié un premier livre en 2021 intitulé « Jouir d'avoir mal » aux éditions La Musardine et vous proposez le petit guide d'entrée dans la vie sexuelle qui paraîtra en mars prochain aux éditions Le Cherche Midi à destination des étudiants. Vous proposez également aux étudiants de l'Université de Rouen de vous envoyer leurs questions sur la sexualité par mail depuis maintenant plus de 2 ans. Vous avez commencé durant le confinement et on pourra en parler tout à l'heure, pour leur permettre d'oser dialoguer de façon plus libre et anonyme sur ces sujets peut-être encore tabous qui entourent la sexualité. Et pour commencer, j'aurais aimé avoir votre point de vue, votre bilan sur l'impact de ces 2 dernières années sur la sexualité des étudiants.
Eh bien, je pense que le confinement a été assez délétère à plus d'un titre sur la vie relationnelle globale des étudiants, mais comme de tous les citoyens finalement soumis au confinement et au couvre-feu. Mais je dirais que pour les étudiants, c'était particulièrement critique dans la mesure où nombre d'entre eux étaient isolés, confinés dans des espaces extrêmement réduits, parfois des chambres du Crous de moins de 10 mètres carrés, confinés seuls ou en couple, loin de leur famille, avec des cours exclusivement en visio, avec parfois une inversion des rythmes jour-nuit, une difficulté à avoir des repères dans leur vie quotidienne et un sentiment d'isolement et de solitude extrêmement aigu qu'ils ont tenté de compenser pour beaucoup d'entre eux par des rencontres via les applications de rencontres. Et comme les lieux de sociabilité habituels étaient fermés, ils ont été amenés à aller directement chez des personnes qu'ils ne connaissaient absolument pas ou dont ils avaient l'impression de les connaître peut-être après quelques échanges écrits de messagerie et se sont souvent mis en danger avec des partenaires inconnus, parfois malveillants. Donc il y a eu énormément de conséquences en fait, à la fois en termes de sentiment de solitude, recherche de compensation face à ce sentiment de solitude, augmentation de la consommation de pornographie qui n'est pas mauvaise en soi, mais qui a pu générer beaucoup de stress, un repli sur soi avec une certaine culpabilité parfois liée à une difficulté à accepter un besoin de se masturber un peu plus pressant qu'en temps normal. Et tout ça était pourtant bien compréhensible parce qu'il n'y avait plus de possibilité de faire du sport, de sortir, de se défouler, d'avoir des loisirs, de rencontrer aussi simplement des amis sur le campus. Enfin, tout ça a été extrêmement difficile et ça m'amène à dire que dans la souffrance psychique dont on a beaucoup parlé quand même des étudiants, qui avaient d'ailleurs, c'est une petite parenthèse, mais aussi des difficultés sur le plan de la précarité matérielle, hein, c'est-à-dire que nombre d'entre eux avaient perdu aussi leur job étudiant, ce qui fait qu'ils n'avaient pas forcément les moyens même de se nourrir. Ça a été quand même assez dramatique de ce point de vue-là. Ils ont vraiment été éprouvés à plus d'un titre et ils se sont mis en danger dans des rencontres d'un soir avec des partenaires inconnus. Et voilà, donc c'est vraiment une période, je pense, dont on ne mesure pas encore bien les conséquences. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que la place des questions relatives à la vie affective et sexuelle dans la souffrance psychique des étudiants, elle est centrale en fait. Et je pense que c'est encore trop minimisé.
On l'évoquait durant l'introduction, mais vous avez ouvert au tout début du confinement le chat psycho-sexo, le chat psycho-sexo, vous m'arrêtez si jamais je me trompe sur le nom, à l'Université de Rouen, pour permettre justement aux étudiants de vous envoyer leurs questions. Vous parlez justement de personnes qui se seraient mises en danger en rencontrant
des personnes parfois malveillantes en dehors des lieux de sociabilité publique usuels. Mmh. Est-ce que vous avez des exemples de questions que vous auriez pu recevoir, que vous avez traitées fréquemment?
Alors, les questions, effectivement, j'ai, en fait, c'est simplement une boîte mail que j'ai mise à disposition des étudiants sur lesquels ils pouvaient m'envoyer des questions de manière anonyme, des questions liées à la sexualité, parce qu'ils ne pouvaient pas forcément venir me consulter, même si les consultations ont continué au service de médecine préventive. On a fait aussi pas mal de consultations en visio, mais c'était pas toujours possible. Et les étudiants étaient parfois confinés aussi chez leurs parents, et donc ils disposaient pas d'un espace de confidentialité suffisant pour pouvoir avoir une consultation même en visio. Donc ils ont posé des questions très variées, en fait, à la fois beaucoup de questions quand même sur la pornographie, la consommation de la pornographie. Est-ce que je suis addict à la pornographie ou à la masturbation? Est-ce que je vais mourir puceau? Est-ce que je vais réussir à rencontrer un ou une partenaire sexuelle? Quelles sont les attentes des femmes par rapport à la sexualité? Quelles sont les attentes des hommes par rapport à la sexualité? Qu'est-ce qu'il faudrait savoir pour se préparer à son premier rapport sexuel? Comment est-ce qu'on fait quand on a vécu un premier rapport sexuel sous contrainte, ou qu'on a le sentiment d'avoir été abusé sexuellement, ou qu'on a subi un viol et qu'on ne supporte plus l'idée d'avoir des rapports sexuels, y compris avec un partenaire ou une partenaire dont on est amoureux ou amoureuse? Voilà un peu des exemples de questions qui m'ont été posées, et j'ai essayé de répondre à ces questions par le biais de vidéos que j'ai enregistrées grâce à l'équipe du service audiovisuel de l'Université de Rouen, et qui ont ensuite été postées sur la page Facebook de l'Université de Rouen. Et donc les principaux thèmes que j'ai abordés concernaient la pornographie, la masturbation et l'importance du vécu des premières expériences sexuelles et leur impact sur la poursuite de la sexualité. Mais ça ne se substitue pas, enfin c'était des tentatives que j'ai faites pour aller à la rencontre des étudiants malgré les difficultés liées à notre contexte sanitaire, mais ça ne se substitue pas à l'intérêt de consultations individuelles qui ont aujourd'hui repris de manière tout à fait satisfaisante, puisque les étudiants peuvent venir me consulter gratuitement au service de médecine préventive de l'Université de Rouen le vendredi matin. Et je pense que c'est important. Bien sûr, les vidéos, ben, j'ai tenté d'apporter un certain nombre de réponses en regroupant un peu les questions les plus souvent posées, mais rien ne remplace une consultation individuelle où la personne peut s'exprimer en ce qui concerne sa situation particulière, puisque chaque individu a une histoire de vie différente, une culture différente, des représentations différentes au sujet de la sexualité, et il est important de pouvoir explorer ça dans le détail pour pouvoir aider à résoudre un certain nombre de problèmes ou de questions qui se posent.
Et en parlant de représentations différentes que peuvent avoir les individus, justement, on entend de plus en plus parler médiatiquement, et je dis médiatiquement parce qu'on constate assez souvent un écart entre les effets de loupe médiatique et la réalité concrète des choses, de pansexualité. Et on voit le spectre de la sexualité perdre peu à peu ses frontières. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez réellement, et qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'en effet, aujourd'hui, il y a une grande créativité en matière de sexualité, et que beaucoup de nos normes et de nos codes se déconstruisent avec en effet des questionnements sur le genre, et notamment sur, pour soi-même, des questionnements identitaires de l'ordre de est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis les deux, c'est-à-dire souvent est-ce que je suis non-binaire, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez fréquemment en consultation, bon, sans parler évidemment des questionnements liés à la transidentité, hein, au fait de se sentir dans un corps qui n'est pas conforme à ce qu'on ressent sur le plan psychologique, c'est-à-dire le fait de se sentir femme dans un corps d'homme ou l'inverse. Et aujourd'hui, en effet, on parle beaucoup plus librement de ces sujets et c'est une bonne chose, mais je pense que ça ouvre aussi la porte à des confusions parce que je vois bien qu'on mélange un peu tout, c'est-à-dire la question de l'orientation sexuelle et la question de l'identité sexuelle sont deux questions totalement distinctes. L'orientation sexuelle, c'est ce qui désigne mon attirance vers un homme ou une femme. Mon désir sexuel va être suscité plutôt par un partenaire masculin ou par un partenaire féminin. Et mon identité sexuelle, c'est complètement autre chose. C'est le fait de se sentir homme ou femme. Donc ça, c'est important de le rappeler. Vous parliez du pansexualisme. Le pansexualisme désigne le fait d'être attiré par toutes sortes de partenaires, que ce soit des hommes, des femmes ou bien des trans, des femmes trans ou des hommes trans. Et le pansexualisme, ça désigne une ouverture à tout type de partenaire où finalement ce qui compte, c'est plus de rencontrer une personne au sens large, quel que soit son genre ou son orientation sexuelle. Donc ça, je pense que c'est important de revenir sur ces définitions. Ce que je constate aujourd'hui, peut-être encore plus que toutes ces questions-là en termes de pratiques sexuelles, même si c'est lié aussi à des questions d'orientation, c'est une ouverture. Beaucoup de jeunes couples qui décident d'être des couples ouverts et d'avoir plusieurs partenaires, indépendamment d'une relation amoureuse. De départ et qui autoriserait le fait que chacun puisse vivre de part et d'autre d'autres expériences sexuelles, en sachant qu'on n'est jamais à l'abri de tomber amoureux, y compris d'un sex friend ou de quelqu'un qu'on imagine au départ simplement comme un partenaire sexuel, et que toute rencontre avec un autre être humain, qu'il soit homme, femme, homosexuel, hétérosexuel, pansexuel, bisexuel, non-binaire ou que sais-je, eh bien, on peut tomber amoureux même si on l'a pas prévu au départ et qu'on peut être surpris par des sentiments qui nous dépassent en fait.
Oui, parce que derrière la question de la sexualité, avant tout, il y a la question des sentiments et de la gestion des émotions, du sentiment amoureux. Et c'est vrai que ce dont vous parlez, c'est une forme de relation libre sérieuse, on pourrait l'appeler comme ça.
Mais en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est que souvent les couples ont une idée assez précise de ce qu'ils souhaitent. Alors ils en discutent, ils négocient, ils définissent un cadre, des limites. Mais en fait, la réalité de l'expérience montre qu'on ne peut pas tout prévoir et qu'on a beau avoir le sentiment d'être parfaitement au clair avec ce qu'on recherche ou ce qu'on a envie de tenter comme expérience, eh bien, la vie est pleine de surprises et on peut s'apercevoir voir que ce qu'on imaginait comme quelque chose de très cadré et de sans danger va se révéler plus, non pas dangereux, mais plus risqué qu'il n'y paraissait au départ. Et c'est pas évident de pouvoir concilier plusieurs relations de front, même si elles ont au départ ou en théorie des statuts différents.
C'est intéressant parce que vous avez amené le terme de risque. Ce qui m'amène justement à vous demander, puisque effectivement c'est important de redéfinir les termes, qu'est-ce qu'une pratique à risque selon vous ? Et est-ce que vous pensez qu'on peut parler d'une augmentation des pratiques à risque chez les étudiants aujourd'hui ?
Alors, une pratique à risque, je dirais que c'est une pratique qui va nous amener à vivre des choses au-delà de ce qu'on souhaiterait. C'est-à-dire qu'il va nous amener à dépasser des limites. Mais toute la difficulté, notamment à cet âge de la vie, c'est que si on considère que entre 20 et 30 ans, on va dire, on vit nos premières expériences sexuelles, eh bien, pour savoir exactement ce qui nous convient, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous excite, ce qui nous déplaît, ce qui nous attire, etc., on a besoin de faire des expériences parce qu'on ne peut pas le savoir à l'avance. Et c'est en faisant ces expériences et parfois en prenant des risques qu'on apprend justement quelles sont nos limites. Si on transpose sur le sujet de l'alcool, par exemple, avant de savoir que je peux supporter de boire tant de verres d'alcool avant d'être malade et d'aller vomir, eh bien, j'ai besoin de vivre cette expérience pour savoir Mais j'encourage pas du tout à l'alcoolisation massive, loin de là. Mais je constate simplement que pour pouvoir connaître nos limites, de manière générale, on a besoin de les atteindre en quelque sorte. Donc dans la sexualité, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que je pense que c'est inévitable à l'âge des premières expériences, qu'elles soient sexuelles ou d'autres natures, de prendre des risques pour prendre conscience du fait que ben là on a percuté une limite et ça nous permet de délimiter notre territoire psychique, notre territoire relationnel et de nous déterminer sur ce qui nous convient, ce qui nous convient pas, ce qu'on va aimer, etc. Donc je pense que c'est inhérent à cet âge de la vie de prendre des risques, pour le dire en résumé. Et que, bah, bien évidemment, dans le domaine de la sexualité, c'est comme dans n'importe quel domaine, et il faut parfois passer par ces prises de risque pour ensuite avoir une attitude beaucoup plus adaptée à nos propres besoins et à nos propres limites. Voilà. C'est un apprentissage, comme un enfant à qui on apprendrait à ne pas toucher le feu. Un enfant, au départ, ne sait pas que le feu, ça brûle, donc il va toucher, et puis ensuite, il va se rendre compte que ça fait mal, donc il ne recommencera pas. Et c'est comme ça à tout âge de la vie.
Tout à fait. Et ce qui nous amène, en parlant d'apprentissage, à parler justement de prévention des risques, puisque la prévention des risques est nécessaire, mais est-ce que, selon vous, aujourd'hui, la prévention des risques, en parlant de prévention des risques sexuels, est faite de la bonne manière? Est-ce qu'on aborde le sujet de la bonne façon ou non? Et pourquoi?
Bon, alors moi, je ne peux pas me placer en position surplombante pour attribuer des bons et des mauvais points. Ce que je peux, de mon point de vue, j'ai le sentiment que il y a peu de lieux où on peut aborder ce genre de questions, sauf une fois qu'on a basculé de l'autre côté et qu'on est complètement en difficulté et que là, bah, on a accès à des soins et donc à des professionnels qui vont nous aider à essayer de d'aller mieux, en fait. Mais si je prends de nouveau l'exemple de l'alcool, ce que je constate, c'est que, par exemple, dans les soirées étudiantes, en début d'année, dans les moments de bizutage, de soirées d'intégration, etc., la place de l'alcool, elle est majeure, hein, c'est-à-dire qu'on considère que si on ne boit pas, c'est problématique, et donc minimise les risques qui sont pris, et notamment dans la sexualité, en lien avec ces consommations d'alcool. Moi, j'ai très très nombreux étudiants et étudiantes, hein, c'est pas réservé à un sexe ou plutôt qu'à l'autre, qui me racontent avoir vécu des expériences vraiment déplorables en termes de sexualité, je sais pas, des rapports sexuels dans les toilettes d'une boîte de nuit après avoir pris de la cocaïne et puis je sais pas combien de verres d'alcool fort et qui regrettent après coup d'avoir vécu des choses, voire qui ont des trous noirs, qui ne se souviennent pas de ce qui s'est passé, mais qui se retrouvent après coup dans des situations où ils se rendent bien compte que quelque chose s'est passé et quelque chose de violent, parce qu'ils ont souvent aussi des traces sur leur corps. Et ça peut, enfin, je pense notamment à une étudiante en médecine. On sait que les soirées dans les facs de médecine peuvent être vraiment pleine d'excès, qui s'est retrouvée comme ça dans les toilettes d'une boîte de nuit, la culotte baissée, seule, et manifestement elle avait perdu connaissance, et elle sait qu'elle a subi un abus sexuel, et elle était hantée dans les jours et les mois qui ont suivi par l'idée que que la personne qui avait abusé d'elle, eh ben c'était probablement un étudiant qu'elle croisait tous les jours sans savoir que c'était lui, en fait. Et là, on est dans des situations où les dommages qui sont créés sur le plan psychique sont quand même de l'ordre du traumatisme et qu'il va falloir un certain temps pour pouvoir se reconstruire après un événement comme celui-là et même construire un rapport à la sexualité plus sain, plus sécure, être capable de pouvoir faire confiance à des partenaires et puis aussi apprendre à ne pas se mettre en danger par des conduites qui vont nous faire perdre nos moyens et nous mettre en état de vulnérabilité face à d'autres personnes qui elles-mêmes sont également sous l'emprise de produits et qui n'ont aucune limite, y compris face à quelqu'un qui n'est pas en état de donner son consentement. Donc il y a comme ça des espèces de surenchère de conduite à risque, notamment dans les soirées étudiantes. Et là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on puisse agir de manière plus concrète sur le terrain. Alors, je sais qu'il y a des choses qui sont faites, hein, notamment au niveau de l'université, avec des kits, je sais plus comment ça s'appelle, mais des kits de soirée, avec des petites trousses dans lesquelles il y a un préservatif, un alcotest, vous voyez, ce genre de choses. Et je pense que toutes ces mesures doivent être multipliées. On sait, là, on a beaucoup entendu parler dans la presse de ce phénomène où dans les discothèques, il y a des personnes à qui on verse des substances type GHB dans les verres d'alcool pour ensuite abuser de leur état, puisque ça les met dans un état proche du coma. Et donc tout ça est une réalité qu'il faut prendre en compte, mais à un niveau un peu différent, on pourrait aussi parler de la consommation de cannabis, qui est extrêmement fréquente et banalisée aujourd'hui, qui est parfois considéré comme un moyen de se désinhiber quand on est un peu anxieux dans les rapports sociaux, au même titre que l'alcool, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire, on se détend quand on a du mal à aller vers les autres, ça peut être un moyen de faciliter la prise de contact, voire la drague, etc. Et en fait, on peut se retrouver piégé parce que le cannabis peut aussi avoir des effets délétères sur la sexualité à moyen et à long terme. Et puis, on peut aussi finir par intégrer l'idée que sans consommation de substances, on ne va pas être capable d'avoir un rapport sexuel ou d'avoir une relation détendue avec un ou une partenaire. Et ça peut vraiment contribuer à faire perdre la confiance en soi, dans la relation aux autres, en fait. Donc, effectivement, il faudrait pouvoir aborder ces sujets de manière plus fréquente, je pense.
Donc, plus fréquente et plus en amont, puisque comme vous l'avez dit, et comme d'ailleurs d'autres spécialistes qu'on a rencontrés dans cette émission sur les sujets de santé mentale, on fait la même constatation, c'est que bien souvent, lorsqu'on accède aux soins, c'est qu'il est déjà trop tard.
Oui.
C'est que on est déjà dans une situation où ça a dérapé. Mmh. Et qu'on n'est pas justement dans la prévention et l'installation de bonnes pratiques pour que ça ne dérape pas. Mmh. Ça, j'ai vraiment la sensation que tous les spécialistes s'accordent à le dire, et c'est vrai. Mais du coup, comment est-ce qu'on devrait faire plus efficacement de la prévention auprès des étudiants en amont, selon vous ?
Bah écoutez, je peux vous parler que de ce que je fais à mon niveau, enfin c'est ce qu'on essaye de faire, hein. D'ailleurs, ça s'appelle, là où je travaille, ça s'appelle le service de médecine préventive à destination des étudiants. Déjà, je pense qu'il y a un énorme travail de terrain à faire, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ignorent qu'ils peuvent aller consulter gratuitement dans les services universitaires de médecine préventive. Par exemple, les étudiants qui sont dans les classes préparatoires ne savent pas toujours qu'ils sont rattachés à une université et qu'ils peuvent bénéficier des services universitaires de médecine préventive. Dans les grandes écoles, je pense que j'ai eu quelques échos là d'étudiants en école de commerce. Notamment, il y a beaucoup d'écoles de commerce qui n'ont pas forcément de services, même pas d'infirmerie, de services médicaux. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il y a des choses, comme on parle beaucoup de la santé mentale des étudiants en ce moment, et j'ose espérer que des partenariats vont se mettre en place pour développer, pour que chaque étudiant, en fait, je pense que quand chaque étudiant, enfin, chaque jeune rentre dans une structure d'apprentissage, que ce soit universitaire, une grande école, un apprentissage, quel qu'il soit, qu'il puisse avoir accès gratuitement à un service de soins, qu'il en soit informé, qu'il ait le détail des consultations qui lui sont proposées. Moi, je pense que, évidemment, je prêche pour ma chapelle, il serait nécessaire qu'il y ait des psychologues, sexologues dans toutes les universités et dans tous les lieux qui reçoivent un public de jeunes adultes, parce que c'est un âge où on vit nos premières expériences et il y a besoin d'avoir des lieux où on peut aborder toutes les questions liées à ses premières expériences, notamment sexuelles. Voilà, c'est-à-dire multiplier les lieux de consultation et communiquer autour de l'existence de ces lieux, parce qu'il existe quand même des lieux, et je vous dis souvent, les étudiants ne sont pas au courant. Après, voilà, moi j'ai décidé d'écrire un petit guide d'entrée dans la vie sexuelle qui est entièrement inspiré par les questions que me posent régulièrement les étudiants, et j'ose espérer que ce petit guide qui fait à peu près 150 pages sera diffusé le plus largement possible, puisqu'il a été conçu pour être offert gratuitement aux étudiants par les services de médecine préventive, pour qu'ils puissent s'informer justement et que ça leur serve de support peut-être pour pouvoir ensuite éventuellement aller consulter s'ils éprouvent le besoin de poser des questions sur des sujets qui les concernent plus spécifiquement, mais de leur dire que voilà, il y a des professionnels qui sont formés, qui sont là pour ça, qu'il n'y a pas de honte du tout à aborder ce genre de sujet, que la sexualité, ça fait partie de la vie, que ce n'est pas inné, que ça s'apprend, qu'il y a des lieux où on peut en parler. Et surtout, il ne faut pas rester seul avec des questions. Quand on reste seul face à des questions qui nous angoissent ou dont on a honte, eh bien, on peut avoir tendance justement à consommer des produits pour oublier ou pour dépasser cette anxiété et à se mettre dans des situations de danger ou de risque. Et c'est là que les choses deviennent inquiétantes, en fait. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on propose en tant que professionnel, c'est aussi notre responsabilité d'être créatif aussi, d'aller à la rencontre des étudiants, d'essayer de favoriser un maximum le dialogue, de former aussi, que les professionnels se forment, qu'on considère que la sexualité c'est un sujet essentiel, même si ça a longtemps été tabou. On a beau être en 2022 et avoir l'impression que la sexualité c'est devenu quelque chose de banal, et moi je constate tous les jours que c'est pas vrai, que beaucoup de professionnels sont eux-mêmes en difficulté pour entendre les gens parler de leur sexualité, parce qu'ils sont eux-mêmes pas formés, pas outillés, qu'ils savent pas comment répondre. En tant que professionnel, quand on n'est pas formé, on peut se sentir intrusif de poser la question de savoir comment se passe la sexualité, on peut se sentir séducteur, alors que quand on sait la place que ça prend dans les inquiétudes de tout un chacun, on devrait pouvoir légitimement dire tout simplement comment ça se passe du côté de votre sexualité, est-ce que vous vous posez des questions, est-ce que vous êtes inquiet sur certains sujets. Voilà, et puis c'est ce que font d'ailleurs mes collègues infirmières spécialisées en contraception au service de médecine préventive. Elles font un travail énorme et assez remarquable d'information et de prévention aussi. Mais la sexualité, ce n'est pas que la contraception. Et c'est vrai que dans les fameuses séances d'éducation sexuelle qui sont censées être dispensées au collège et au lycée, on a tendance à parler de la sexualité uniquement sous l'angle médical, sous l'angle des cycles menstruels. Alors même si tout ça est très important, etc., toute la dimension de la relation affective, et puis après des pratiques, etc., elle n'est pas traitée à ce moment-là. Après, ce serait peut-être un peu trop tôt, mais je pense qu'à partir de 18 ans, à partir du moment où généralement on quitte le foyer familial, et bien c'est là qu'on vit ses premières expériences, et c'est dans ces moments-là que les questions se posent et peuvent se formuler peut-être plus clairement et plus librement. Donc il faut être en capacité d'accueillir ce questionnement et d'y apporter des réponses dans les meilleurs des cas.
Et finalement, c'est peut-être là que peuvent se rejoindre les problématiques de sexualité et de santé mentale, puisqu'en santé mentale, c'est la même chose, on n'apprend peut-être pas assez aux professionnels, je parle autre que, bien entendu, les psychologues et les professionnels de la psychologie, à amener la question de comment vous sentez-vous. Et c'est très intéressant, tous ces tabous qui perdurent et qu'on a abordés ici avec vous. Est-ce que, pour terminer ce podcast, vous pouvez nous donner les endroits où on pourrait vous contacter, vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux?
Alors, donc moi, si tous les étudiants qui dépendent du service universitaire de médecine préventive de Rouen peuvent venir me consulter gratuitement un vendredi matin sur deux en appelant le service de médecine préventive à Rouen. Sinon, j'ai un cabinet à Rouen et j'ai un cabinet à Paris. Et j'ai effectivement un site internet sur lequel on peut m'écrire pour me demander un rendez-vous. Voilà, et puis ben, j'ai mon petit guide d'entrée dans la vie sexuelle, dont j'espère qu'il sera utile au plus grand nombre et qu'il sera en librairie pour tous à partir du 17 mars prochain.
Vous venez d'écouter Amour, Santé et Liberté, le podcast d'Amy, la mutuelle des étudiants et des jeunes actifs. S'il vous a plu, pensez à le partager et à le faire découvrir autour de vous. En attendant le prochain épisode, retrouvez plus de contenu sur la santé et la prévention des risques sur notre site web, amy.care. À bientôt !